Avant de passer à 23 décembre, j'aimerais vous rappeler, la semaine dernière, tu as fait une chronique, Serge, qui parlait du Messie de Handel.
Oui, oui.
Et on avait terminé la chronique en disant, il y avait eu plusieurs versions, on s'entend.
Oh, ouais.
Et on se demandait s'il y avait eu une version pour guitare. Alors, j'ai pris le mandat, j'ai fait une recherche, j'en ai trouvé quelques-unes, mais j'en ai trouvé une en particulier qui a été faite par 4 guitares classiques.
Ah oui?
Je vais vous faire entendre un petit extrait, pas très long, une trentaine de secondes.
À la chanson du banjo, là.
Ouais, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, je trouvais que ça manquait un petit peu de...
Ah oui.
Il me semble que cette chanson-là est plus énergique,
ça
peut-être même agressive.
Ouais.
Fait que j'ai essayé, j'en ai fait une version. J'ai pris les partitions des voix.
C'est Daniel qui va jouer.
Oui, j'ai pris les partitions des voix, soprano, alto, ténor, basse. Puis j'ai joué chacune des partitions par une guitare différente, classique. Après ça, j'ai les joué par-dessus avec des guitares électriques, plus une basse. Puis ça va donner ça.
C'est Daniel.
Oui, oui, je trouvais que c'était plus
énergique. Oui, il y a plus de mordant.
Je la voyais presque comme ça.
Allez-y donc avec votre dernière histoire concernant le marron en 30 secondes.
Ah oui, bien, encore une fois, cette expression n'a rien de culinaire. Tirer les marrons du feu signifie profiter d'une situation donnée pour en retirer tous les bénéfices. Alors, c'est une expression négative car elle pointe du doigt un comportement opportuniste. Cette expression tire son origine d'une fable de Jean de La Fontaine, Le singe et le chat, dans laquelle le félin retire du feu des marrons au profit du singe. Et un exemple, Nicolas n'a rien fait, mais il s'est attribué toute la réussite de mon travail. Il a bien sûr tiré les marrons du feu.
J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, puis j'avais fait, quand je revenais de passer 3 heures dans un igloo, qu'on avait fait 2 ou 3 gars chez Guirondou. J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sa tête une sucre d'orier, parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de petits cuits frères. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, peux-tu avoir un autre hockey?
J'ai perdu le mien au sang des sept, j'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
chansons dont on ne se lasse pas. Oui. Et qui fait partie du premier album de Beau Dommage, premier dont on souligne le 50e anniversaire.
Qui vient tout juste d'avoir 50 ans le 9 décembre. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah, « ça fait un an qu'on en entend parler », parce que c'est vrai.
Oui, mais on ne stand pas.
C'est depuis le début de l'année presque, on dit « ah, l'album de Beau Dommage, 50 ans ». Effectivement, ça avait tellement marqué les esprits, je pense, quand cet album-là est arrivé. Et pour toutes sortes de raisons, on va voir. Et d'ailleurs,
parce que c'était bon en premier.
Oui, oui, parce que c'était bon en premier. Et la chanson 23 décembre, il faut se préciser que la musique avait été écrite par Michel Rivard et les paroles par Pierre Huet. Pierre Huet qui faisait partie de Beau Dommage, mais seulement pour écrire les paroles. Il n'était pas un membre, il ne faisait pas les tournées avec
eux. Un parolier.
C'était un parolier, mais il fait quand même partie parce qu'il a écrit plusieurs chansons pour eux. Et juste une petite parenthèse en passant, je ne veux pas jeter un froid sur la situation, mais juste un rappel, 23 décembre, pour la plupart du monde, et les gens de Beau Dommage en parlaient aussi, c'est pas, ils n'avaient pas écrit ça, eux, dans le but de faire une chanson de Noël. C'était vraiment le 23 décembre, puis quand on écoute les paroles, on le reconnaît aussi, c'est la dernière journée d'école. Avant les fêtes. C'est pas mal, ça tombe pas mal toujours le 23, peu importe quel jour de l'année.
Sentiment de libération.
C'est ça, on s'en va en vacances. C'est pas vraiment Noël, c'est juste, c'est les vacances. Enfin.
Ouais, mais il y a quand même des grelots.
Oui, 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 on a mis un petit peu d'ambiance de Noël là-dedans, mais c'est quand même... eux autres, ils faisaient pas ça du tout pour dire « Ah, on fait un album de Noël » ou « On fait une chanson de Noël qui va rester ». Ça a été une grande surprise pour eux. Que ça devienne un classique. C'est devenu un classique de Noël.
Oui, Joyeux Noël, M. Côté, on se reverra le 7 janvier.
Mais au départ, c'était pas ça le but. Et on a une petite chose aussi. 23 décembre, ça ne fait pas dire la même chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, le 18 décembre, ça fait 18 ans le 18 que mon père est décédé.
Ah oui.
Et ses funérailles étaient le 23 décembre.
Ouais.
Fait que depuis 2006, quand j'entends ça résonne autrement. Décembre, j'entends pas la même chose que vous autres. C'est quand même correct, et puis j'apprécie beaucoup cette chanson-là.
Chacun a ses histoires personnelles.
Ouais, ouais, ouais,
quel est le prénom de, de votre
Bertrand.
Père?
Bertrand. On parlait donc de Bertrand tantôt. Oui. J'avais un petit sourire
Bertrand.
À un coin.
Bertrand, on pense à lui, on le salue.
Oui, oui, oui. Donc, on va pas s'attrister là-dessus. L'album avait été lancé le 9 décembre 1974. Et apparemment, en 4 semaines, il y avait déjà 210 000 exemplaires de vendus.
Il y avait la rumeur, là, c'est parti comme ça.
Ça fait une bombe. Et moi, je me souviens, la première chanson que j'ai entendue de cet album-là, c'est bien entendu « La complainte du phoque en Alaska ». Et ça m'avait vraiment frappé. Je me disais « Ah, wow, qu'est-ce que c'est ça? » Parce qu'enfin...
Crée-moi pas.
Une chanson qu'on comprend, justement. C'est écrit dans notre langage. C'est un peu poétique, ça raconte une histoire, mais en même temps, c'est pas quelque chose de trop flyé, parce que on était habitué, les chansons en français à l'époque, il y avait encore beaucoup de traductions. Et ceux qui écrivaient des bonnes chansons, souvent, on s'associait pas vraiment à ça. C'était peut-être soit trop poétique ou un peu flyé à la Charlebois, où on avait quand même du choix. Mais ça, on dirait...
Charlebois, on tripait.
Oui, mais je veux dire, c'était quand même différent. C'était assez flyé comme texte habituellement. Surtout là, à cette époque-là, c'était pas longtemps
Harmonium,
après. Harmonium commençait. Mais là, on dirait quand ça s'est arrivé, Beau Dommage, je sais pas, ça m'a s'identifié.
On était dans le quotidien.
Facilement.
Oui, ouais, c'était
exactement,
plus concret.
Exactement. Les chansons de Beau Dommage, c'est le quotidien de la vie à Montréal. Ils racontent leur quotidien. C'est des images qu'on voit. C'est pas quelque chose.
On s'identifie
de...
facilement.
On s'identifie facilement. Et les textes, beaucoup. Et surtout, je dirais, les harmonies vocales. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. Parce que c'est quelque chose qui manquait peut-être un peu aussi aux autres chansons qu'on écoutait en français. Il y avait souvent des très bonnes voix, il y avait des arrangements intéressants. Les harmonies vocales de Beau Dommage, pas seulement parce que les arrangements étaient bien faits, mais parce que les voix se mêlaient tellement bien.
À merveille.
D'ailleurs, je vais vous faire écouter... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur la chaîne audio de Radio-Canada... Il y a un balado.
Série balado, fantastique.
Série balado sur Beau Dommage. Et on entend tous les membres de Beau Dommage passer leurs commentaires en écoutant les bandes originales de l'album. Donc,
c'est
on
tellement
peut
intéressant.
Isoler...
Ah oui.
J'ai écouté ces 7 épisodes de 23-25 minutes chacun environ, mais ça vaut la peine de se donner le temps.
Oui, parce qu'on raconte toutes les ce qui se cache, l'histoire de chacune des chansons.
Et on entend des extraits. Et d'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait des voix, seulement les voix de 23 décembre, et vous allez comprendre ce que je veux dire.
J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, le temps des fêtes avec sa tête, une suc d'hockey. Parce que je voulais me faire passer pour Doug Harvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Ça, c'était, on entendait le rire de Michel Rivard à la fin. Donc, c'était les voix de Michel Rivard, Pierre Bertrand et Marie-Michel Desrosiers. Et c'était vraiment magique. Et je pense que c'est dans le balado, ils disent à un moment donné, qu'ils étaient beaucoup influencés par les harmonies vocales des Beatles et des groupes britanniques à l'époque. Mais moi, j'ai retrouvé une ressemblance. Je me souviens pas s'ils l'ont mentionné dans le balado, mais j'ai retrouvé une ressemblance avec les harmonies vocales de Crosby, Stills and Nash. Je vais vous faire écouter un petit bout, vous allez voir.
Nash & Young?
Ben, avant que Neil Young se joigne à eux, c'était Crosby, Stills & Nash.
Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye.
Des familiarités.
Des familiarités, puis le petit goodbye, comme dans J'ai perdu le mien, beau sans dessin. Hein, ça, je trouvais que c'était...
C'est sûr qu'ils écoutaient de la musique, ils étaient influencés par toutes sortes de groupes.
C'était vraiment cette époque-là aussi, donc c'est ce qu'ils écoutaient et ça paraît. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le groupe Beau Dommage, c'était parti dans le fond de des amis qui se sont rencontrés, qui faisaient partie de la Canouille Bleue et de la famille Cassegrain. Et au départ, Michel Rivard raconte là-dedans que quand il a commencé à écrire des chansons avec Robert Léger, il n'avait pas nécessairement l'intention de les chanter lui-même. Il ne faisait pas confiance à sa voix. Et...
Ah oui, je me souviens. Oui.
Et c'est pour ça qu'ils ont demandé Pierre Bertrand de se joindre à eux. Ils trouvaient que lui, c'était vraiment un chanteur. Mais même ça, au début, ils avaient offert leurs chansons à Donald Lautrec.
Oui.
Oui. Le monde disait, comment ça, Donald Lautrec? Pas rapport. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Donald Lautrec avait lancé un album un an ou deux avant qui s'appelait Fluffy. Le mur derrière la grange,
absolument.
Tout ça. C'était très différent de ce qu'il faisait avant. C'était très intéressant aussi. Malheureusement, ça n'avait pas beaucoup marché.
Malheureusement.
Okay. Ça n'avait pas beaucoup marché parce que probablement que c'était trop différent, justement, de ce qu'il faisait avant. Donc, le public de Donald Lautrec...
On l'avait pas suivi.
Et non, ça n'a pas marché. Alors,
donc, lui, il a dit non.
Il a dit non. Je ne sais pas si c'est lui ou son gérant. Ils ont dit, bon,
mais
là,
lui,
ça
t'a mort.
C'est ça. C'était trop... Ça sortait un peu trop de son, son style habituel. Donc, ils ont enregistré eux autres même l'album.
Une belle occasion.
Quelle erreur ils ont fait. C'est incroyable. Et d'ailleurs, après que cet album-là a été lancé, ils ont perdu un peu le contrôle. Parce que ça a tellement roulé, ça a tellement a été vite que pour eux, là, ils ont perdu le contrôle de leur vie complètement. Ils étaient soit en tournée ou en studio pour enregistrer ou en entrevue. Donc, pendant quelques années, il n'y avait pas vraiment de vie.
Avalés par le travail.
Ils ont été avalés par ça, tout simplement. Et même que, c'est ça, Robert Léger a abandonné après le deuxième album. Parce que lui, pour lui, là, c'était pas cette vie-là, ça lui convenait pas. Il était pas capable de... Il a continué quand même à écrire pour eux, mais comme plus de scène, là, il y en avait ça claque. Et je peux le comprendre aussi. T'es jamais chez vous, t'es tout le temps en train de... C'est le fun des applaudissements. Ouais, ça doit être une drogue aussi de toujours... Mais être bien chez vous, la paix, une fois de temps.
Oui, puis à un moment donné, j'imagine que la fatigue te rattrape.
Oui, la fatigue finit par rattraper.
On a-tu des extraits?
On a des extraits du premier album, quelques chansons, on va écouter ça.
Le jour se lève, puis l'ange est là, toujours assis. N'ose pas penser à l'homme aux clés qui est parti. La première neige est tombée sur les Chinatown. Les rues sont glissantes, y a un accident. De Saint-Hubert et Jean Talon.
Yeah. été, puis des souliers à talons hauts. T'as mis la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Wow, 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 wow.
Oui.
Donc, ce qu'on a entendu, c'est des extraits de Un ange gardien, Chinatown, Le Picbois et Ginette. Et je vous ai dit tantôt qu'il y en a quelques-unes que j'aimais moins. Je vais en nommer juste une. Ginette, là.
Ah oui, vous n'êtes pas capable?
Ah.
Jamais.
Non, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Bon, OK, probablement que c'est un producteur qui leur a dit « Ça prend un hit qui va jouer en radio, qui va accrocher, tout ça. »
Ah, pensais ça?
Moi, je le voyais comme ça. C'était pas ça, mais c'est ce qui
c'est
est arrivé.
C'est comme ça vous le percevez.
C'est ce qui est arrivé un peu. Puis je suis certain que la plupart des membres de Beaudommage aussi, à un moment donné, sont devenus un peu tannés de l'affaire, mais il n'y avait pas le choix.
Mais comme Rivard était tanné de faire la complainte du Faucon Alaska.
Donc là, c'est un de tes plus gros hits. Fait qu'en spectacle, si tu ne joues pas,
tu vas te faire huer. Tu vas frustrer ton public.
C'est ça. Donc, fait que celle-là, c'est sûr que je l'aimais moins. Par contre, les autres, ce que j'ai trouvé intéressant dans le balado, justement, c'est qu'à un moment donné, Robert Léger a dit que Pierre Huet était très déçu de la musique qu'il avait écrite pour Le Géant Beaupré.
Ah oui?
Puis moi, c'est une des meilleures, je trouvais. Quand j'ai entendu ça, c'était vraiment dans l'époque aussi du rock progressif, mais plus accessible. Puis je trouvais que les arrangements étaient bons. Là.
Les voix?
Tout était bon, puis le changement de rythme. Donc, non, je ne sais pas. Pierre Huet, lui, quand il avait écrit cette chanson-là, il ne voyait pas comme ça.
Et pourtant,
en tout cas, c'est juste pour dire que souvent, celui qui a créé la chanson...
n'a pas le même point de vue.
a vraiment appris une vie que lui, il n'aurait pas souhaité, mais finalement, c'est très, très positif.
Là-dessus, est-ce qu'on a « À toutes les fois »? À toutes les fois.
Ça, c'est sur l'autre album.
OK, bon, je m'amuse.
C'est sur l'autre album. Mais d'ailleurs, j'ai commencé les extraits par Un ange gardien parce qu'on peut entendre la voix de Marie-Michel Desrosiers et elle a seulement deux chansons sur cet album-là. Et cette chanson-là, je pense qu'elle ne devait même pas apparaître sur l'album. En principe, ça devait être le blues de la métropole qui apparaissait sur le premier album. Mais on dit, Marie-Michel, elle a seulement une chanson, c'est passé, on va lui en donner une deuxième.
Et elle a tellement de belles voix.
Elle a tellement de belles voix. Donc, c'était un très bon choix qu'ils ont fait, dans mon goût, de prendre celle-là. Juste rapidement, parce que je ne veux pas qu'on défonce trop non plus.
Non, il faut laisser la place au Faucon en Alaska.
Oui, il y a eu quand même plusieurs honneurs. Hein. Le groupe Beaudommage a reçu plusieurs honneurs. 28 avril 2009, ils ont reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. En juillet 2013, on salue les gens de Post-Canada qui sont de retour au travail. Le Post-Canada a immortalisé le groupe Beaudommage.
Ah, oui.
Avec un timbre à son effigie. Quand même, c'est quelque chose d'assez rare, ça, que ça arrive. En juin 2015, derrière le célèbre 67-60 rue Saint-Vallier, il y a maintenant...
Qui existe toujours.
Murale, oui, qui est représentée...
Oui, la murale qui a été vandalisée, là.
Oui, malheureusement. Et en septembre 2017, le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a intronisé le groupe Beaudommage.
Il reste quelques secondes. Pourquoi ça s'appelle Beaudommage?
C'est une expression.
Hein?
Oui, il l'explique. Puis moi,
dans le
c'est
balado.
Drôle. J'avais jamais entendu cette expression-là.
Ah oui, bien oui, Jean
jeune,
Coutu peut-être. Dans son personnage, le Beaudommage.
Non.
C'était quoi la série avec Jean Coutu? Il me semble que c'était ça, son patois, Beaudommage.
En tout cas, apparemment que c'est une expression très québécoise
oui,
qui
oui.
veut dire.
Ah non, vous ne l'avez pas entendu?
Genre, c'est ça qui est ça, ou je ne sais pas.
Pas le survenant, non?
Ah oui, il me semble qu'il disait
c'était
ça.
Pas, c'était pas Beaudommage. Il disait pas Beaudommage, le survenant.
Mais en tout cas, moi, quand j'avais entendu...
Excusez, je me trompe.
Ce nom-là, qui est devenu le titre de l'album aussi, je me demandait où il avait pris cette expression-là, je ne connaissais pas. Là, tout le monde connaît aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sait ce que ça veut dire.
On la connaît.
D'où ça vient.
On la connaît, mais c'est ça, l'origine n'est pas claire. Alors, on se laisse avec...
La complainte du Faucon Alaska, la meilleure, à mon avis.
Et c'est là-dessus que je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Et on pense à notre collègue Isabelle Falardeau
oui,
également.
Bonne fête.